L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann.
Nous étions en tout 13 Lituaniens, 11 garçons et 2 filles, dont la moitié environ étaient juifs. Les deux jeunes filles qui n'étaient pas juives et 2 garçons qui l'étaient venaient de Rytevé, une bourgade proche de Telts. Ce chiffre de 13 ne nous plaisait pas trop, mais c'était comme ça. Des fonctionnaires nous firent monter dans un camion délabré, sans banc où s'asseoir, et le véhicule se mit à rouler. Les routes des steppes n'étaient ni asphaltées ni pavées, mais en terre desséchée. Elles étaient poussiéreuses, dures et pleines de bosses et de trous. Le camion n'avait pas d'amortisseur, si bien qu'à chaque bosse, nous étions projetés à 20 cm au-dessus des planches. Dans les champs, les paysans plantaient le coton et du piment rouge. Il y avait aussi beaucoup de pâturages où paissaient des centaines de moutons. La route était longue et nous étions épuisés de fatigue et de faim. On nous donnait tout juste de quoi ne pas rendre l'âme. Mon Dieu, sur quel chemin nous emmenait-il? Pour le meilleur et pour le pire, il nous conduisait sur la voie de notre destinée, une destinée dont, encore une fois, nous n'étions pas les maîtres. Que dire? Au lever du soleil, il faisait froid, dans la journée, le soleil brûlait, et la nuit soufflait un vent glacial. Les bosses sur la route nous brisaient les os. Après quelques jours, nous sommes arrivés à 400 km de Tashkent, à très peu de distance de la frontière de l'Afghanistan. La ville la plus proche s'appelait Karsi, mais on nous déposa au milieu de la steppe, loin de tout, dans une plantation de coton. Il n'y avait là pas le moindre bâtiment en dur, mais seulement quelques baraques de planches. Les Ouzbeks qui travaillaient dans la plantation avaient une cantine où ils prenaient gratuitement leur repas de midi avec les bergers des environs, une cantine qui leur était rigoureusement réservée et où nous n'avions pas droit de cité. Ils nous attribuèrent une cabane où ils nous jetèrent tous ensemble, entassés les uns sur les autres. Nous dormions dans un seul lit, enfin sur un grabat qui nous tenait lieu de lit. Dans un coin de l'unique pièce de la baraque, ils avaient placé une estrade de bois comme pour des artistes. Mais nous n'étions ni des artistes, ni des spectateurs, nous étions des victimes de guerre et dormions à même le bois des planches. Le sol était nu, en terre battue, et il n'y avait ni eau ni toilette. Il fallait faire des centaines de mètres pour aller chercher de l'eau avec le seau qui nous avait été attribué. Nous ne pouvions pas mettre d'eau de côté car il n'y avait ni réservoir ni récipient supplémentaire. Aussi en gardions-nous le minimum pour boire et nous laver. Nous faisions notre toilette près du puits sans savon ni serviette pour nous essuyer et encore moins de linge pour nous changer. Nous mettions aussi de côté l'eau pour préparer notre repas de midi qui était l'unique repas de la journée. Peut-être n'allez-vous pas me croire ou être sceptique. Pour notre travail, on nous donnait 400 grammes de farine de très mauvaise qualité, de couleur foncée, mélangée à de petits morceaux de paille, une farine qui n'avait pas été nettoyée. C'était tout ce que nos geôliers nous donnaient par jour et par personne. Il était impossible de cuire du pain avec cela. La seule chose que nous pouvions faire était de cuire une soupe, une sorte de bouillie, à laquelle nous rajoutions autant de piments rouges que nous pouvions en trouver et que nous cueillions dans les champs. Personne ne peut tenir très longtemps à ce régime, nourri avec une telle ration, une seule fois par jour. Bien sûr, nous étions jeunes et robustes, notre moyenne d'âge était de 18 à 20 ans. Mais aucun de nous ne mangeait à sa faim depuis plusieurs semaines déjà, et notre organisme se dégradait rapidement. Notre extrême dénuement et notre épuisement physique avaient même chassé de notre esprit toute idée de rapprochement entre les sexes. Tous les jours, nous étions obligés de sortir travailler dans les plantations. Les garçons et les filles étaient soumis au même régime. Notre travail consistait à comprimer le coton pour en faire des balles rectangulaires. Chaque balle était ensuite ficelée et pesait environ 50 kilos. Nous soulevions ensuite la charge pour la fixer sur notre dos qui était équipé d'une installation spéciale dont le bas comportait une planche retenant le fardeau. Après cette première opération, il nous fallait transporter le tout jusqu'au lieu de stockage, près de la pyramide dont la hauteur montait au fur et à mesure de l'empilement. Pour accéder à son sommet, nous devions grimper le long d'une planche qui culminait à 10 mètres au-dessus du sol. Les premiers pas étaient les plus faciles, mais quand la pyramide s'élevait, la montée sur cette planche assez étroite était des plus périlleuses. La tête nous tournait de faim. Combien de temps pouvions-nous endurer un labeur aussi accablant, vu notre jeune âge ? La journée de travail commençait à 7 heures du matin et s'interrompait au repas de midi. Les Ouzbeks arrêtaient alors pour aller manger dans leur cantine. Et nous dirigeons nos pas vers notre cabane pour préparer l'unique repas de la journée, la fameuse soupe qui était vite prête et vite avalée. Quand nous avions terminé, nous approchions de la cantine pour regarder les Ouzbeks manger. La salive nous coulait littéralement de la bouche. Nous n'avons pas pensé une minute à nous rebeller tant nous étions coupés du monde et brisés de fatigue et de faim. Avec le recul du temps, cette situation peut ressembler à une farce ridicule ou comique, mais nous n'avions aucune prise sur les conditions qui nous avaient été imposées. Quand bien même, en dehors de nous affamer et de nous abrutir de travail, les Ouzbeks n'exerçaient sur nous aucune violence. Les mois d'errance et de sous-alimentation, l'état loqueteux auquel nous avions été réduits par ces milliers de kilomètres parcourus, et par-dessus tout l'extrême isolement où nous avait laissé la séparation brutale avec nos familles et notre environnement, tout cela rendait notre condition matérielle et morale absolument tragique. Dans le mépris et l'ignorance où nous tenaient les Ouzbeks au milieu de ce désert au sens propre et au sens figuré, seule notre camaraderie nous a permis de survivre et de nous reconnaître comme des êtres humains. On ne peut pas dire que les Ouzbeks n'avaient pas de quoi manger, bien au contraire. Ils en avaient à se crever la panse. Mais ils nous ignoraient, faisaient mine de ne pas nous voir, car ils n'avaient évidemment pas le courage de regarder nos yeux affamés. Je ne sais pas au juste pourquoi ils agissaient ainsi. Sûrement pas parce que nous étions juifs ou lituaniens. Ici encore, comme dans les autres républiques soviétiques que nous avions traversées, la haine contre les Russes était profonde, et nous en avons sans doute payé le prix. Ils étaient de religion musulmane, ne travaillaient pas le vendredi, et pour l'occasion abattaient plusieurs moutons qu'ils faisaient rôtir entiers sur des broches pendant des heures. Dans un très grand récipient, ils préparaient du riz et des légumes en quantité. Lorsque le mélange était cuit, ils se rassemblaient dans le champ de coton, s'asseyaient les jambes croisées à même la terre en formant un cercle et partageaient la nourriture. Attrapant une poignée de riz avec la main gauche dont le creux servait d'assiette, ils utilisaient la main droite pour porter la nourriture à leur bouche. Ils se léchaient les doigts pour se nettoyer quand ils avaient terminé. Le reste de graisse était aussitôt utilisé pour faire briller leurs bottes de cuir de fabrication locale, d'une souplesse rare et quasiment sans semelle. Que l'on s'imagine notre désespoir à nous qui regardions tout cela, épuisés, affamés, avec nos vêtements en haillons et notre linge en loques, linge que nous portions sur nous depuis que nous avions quitté nos maisons et dont nous n'avions jamais eu la possibilité de changer. Blanc lors de notre départ, il n'avait pas résisté au lavage hebdomadaire sans savon et était devenu marron. Je ne souhaite à personne de vivre une situation pareille. Mon parcours à vélo, pour terrifiant qu'il ait été, m'avait porté à la rencontre d'une population russe accueillante, cordiale, hospitalière, exprimant sa compassion en nous offrant un morceau de pain et un verre de lait, ou bien même un repas et un endroit pour dormir. Par rapport à ce que nous trouvions chez les Ouzbeks, les gens nous avaient manifesté une extraordinaire bonté. Dans la Russie profonde, comme nous dirions la France profonde, les gens ne savaient pas si nous étions des Juifs ou des Lituaniens. Pour eux, nous étions des malheureux qu'il fallait aider. Un point, c'est tout. Ils partageaient avec nous leur dernier morceau de pain. Ma présence ultérieure dans l'armée soviétique a totalement confirmé cette expérience. Mais nous reviendrons là-dessus. Le travail nous était chaque jour plus pénible. Nous étions pris d'étourdissement quand nous montions la planche chargée du ballot de coton. Khlopok signifie coton en russe, mais désigne aussi cet état de vertige accompagné par une faiblesse telle que les jambes se mettent à trembler comme les pattes d'un poulet. Ce qui devait arriver finit par arriver. Un jour, je tombai à mon tour de la planche que j'étais en train d'escalader avec ma charge pour la stocker au faîte de l'édifice. D'autres camarades avaient commencé à s'écrouler. L'un d'entre nous tomba malade du typhus et en peu de temps contamina le reste du groupe. Notre organisme était si affaibli qu'il était prêt à attraper n'importe quelle maladie. Des abcès se formèrent sur mon corps et celui de mes camarades. Ils grossissaient jusqu'à atteindre la taille d'une pomme, puis éclataient en faisant s'écouler des fontaines de pus. Yeah.
Uns hat man zusammengruppiert mit noch litwischen Jugendlichen. Wir sind gewinn 13. Sind der Ziffer allein hat uns nicht gefallen. 11 Bocherim und 2 Mädlich. Die Taler sind gewinn ungefähr eine Hälfte. Da hat man uns reingesetzt in der Lastete und uns weggeführt. Der Weg ist gewinn sehr steibige, weil die Wege in die Steppe seine nicht asphaltiert und auch nicht blockiert, nur postet eingetrottene Erde von den Rädern. Und die Felder ist im ersten Teil gewesen verpflanzt Baumwoll und die rote Pfeffer, auch sehr viel Stades mit Sepsen. Die Weg ist gewesen sehr lang und neusmatternd dick. Essen haben sie uns gegeben, nur auszuhalten in der Sommer. Wo soll ich euch sagen? Die Sonne hat gebrannt, bei Tag und bei Nacht, hat durchgeblasen ein kalter Wind. Die Griebe ausgefahren von den Rädern hat uns zerbrochen, alle Beine. In etlichen Tagen herum sind wir umgekommen auf einen Ort, 400 Kilometer von Taschkent, bei afghanistanischen Grenzen. Der Ort hat geheißen Kerzi, aber wir sind nicht gewinnt weit von dem Ort. So wir seinen Gewinn, ist kein Gebäude nicht gewinn, nur ein Restaurant. Aber nur für die Usbeken, die welche haben gearbeitet in die Felder, für sie ist das Gewinn umsiehst. Und auch für die Pastücher, seinen Gewinn, es gibt etliche kleine holzerne Chatkes, oder man kennt das anrufen Kaban. Hat man uns reingelassen 13 Menschen in der Sachatke, ein auf der anderen. Das laufen sind wir alle in ein Bett. Und wir können das, was sie uns sagen. Weil in dem Zimmer, in einem Winkel, ist gewinnt zusammengehackt vom Bretter, als wie eine Szene für Artisten. Und auf die Bretter sind wir geschlafen, auf der Erde. Seine Kinder nicht gewinnt. Keine sanitären Einrichtungen. Auf jeden Fall nicht kein Wasser. Noch Wasser fliegen wir gehen etwa 100 Meter mit einem Eimer bringen. Von dem Wasser haben wir getrunken und auch sich herumgewaschen, gewöhnlich und safe. Demselben Wasser haben wir genießt zum Kochen, unser Mittag. Ihr werdet mir nicht glauben, als für unsere Arbeit hat man uns zugeteilt 400 Gramm Mehl. Dunkle, mit Sticklech, nicht genäßig reinigte. Das ist gewesen, alles, was man hat uns gegeben, für ein Mensch. Also als Backenbreit, von dem haben wir nicht gekannt. Pflegen wir erst kochen eine Suppe, in welche wir pflegen reinigen, was mehr die rote Pfeffer. Welche wir haben alle Tage zusammengeklebt im Feld. Nur als man hat, nur zum Essen, einmal am Tag, als eine Suppe, kämen den lang leben. Und zudem pflegen wir müssen alle Tag gehen arbeiten im Feld. Unsere Arbeit ist verstanden in Zusammenpressen die Baumwoll und machen von dem Asamin vierkantigen Ball. Und jeder Pack hat gewogen 50 Kilo. Nachdem haben wir das gedarft nehmen auf den Rücken. Auf welche wir haben gehabt, ungetan an seine Riemens, welche haben gehalten hinten ein Brettel und das pflegt abhalten den Pack. Also haben wir das getragen und das zusammengelegt wie eine Pyramide, als Hecher und Hecher. Und wir haben da gleich die Höchkeit gendig verbreitet, bis wir haben da gleich die Höchkeit von 10 Metern ungefähr. Gewöhnlich, als die ersten Meter ist angekommen leichter, aber als die Kuppe ist geworden als größer und man hat gemusst gehen auf dem Brett als Hecher und die Kopf hat gedreht von Hunger, ist wie lang keiner Mensch eschelten. Zudem sind wir alle gewöhnt jung, Also haben wir gearbeitet von 7 in der Früh bis Mittag. Die Usbeken fliegen gehen essen in sein Restaurant. Und wir haben gemusst gehen kochen unser Soup. Unser Essen hat nicht lang gedauert. Und wir fliegen gehen sehen, wie die Usbeken essen. Und gucken dich, ist bei uns Speis gelaufen vom Müll. Hand kommt das Essen lächerlich oder komisch. Aber in die Bedingungen, in welchen wir haben sich gefunden, ist das gewinn tragisch. Wir können nicht sagen, dass die Usbeken haben nicht gehabt, was zu essen. Gar verkehrt, sie hat sich sehr gegossen über der Morde. Aber uns haben sehr viele nicht bemerkt und nicht geguckt in unser ausgehungerte Augen. Alle Freitag fliegen sie machen Ajentöf und Kellenen Sepsen zu machen mit Swi, mit ungekochter Reis. Und sie pflegen sich zusammensetzen in der Rund und essen mit den Händen und legen die Finger von den Fetz. Und nach dem Schmieren mit den Händen sehr Stivo. Er stellt sich vor, unsere Herzen, das zugucken dick. Ausgemattete von der Arbeit, Hungerige, die Sachen abgerissene, die Unterwäsche zerrissene, weil alle Sachen, welche wir haben getragen, ist noch gewöhnt von der Heim. Nicht verkennen gedacht, wie unsere Unterwäsche haben ausgesehen. Wir pflegen sie bei mir, auszuwaschen, einmal eine Woche, aber die Wesen sind nicht gewöhnt weiß noch braun. Wenn ich den vergleiche, mein Vater mit dem Elisabeth und wie die Russen, haben sich bezeugen zu mir mit Gastfeindlichkeit und Mitgefühl. Geben die Kastikel breit mit einem Glas Milch oder geben Opessen mit Nächtigen gegen die Usbeken, seine See gewinnen außergewöhnlich gut. Tief in Russland, also wie man sagt, das ist ein Französisch, la France profonde, haben die Menschen nicht gewusst, zu mir seine Jiden oder Litwiner. Für sie sind wir gewinn unglückliche Menschen, wenn wir mir darf helfen. Ein Punkt und alles. Das ist übersetzt vom Französisch. Ich weiß nicht, wie das klappt, wie Arbeit am Wand. Sie haben sich geteilt, dem letzten Bissen vom Mehl. Ich mein Sein in Armee mit sie ist gewinn als sie. Nur wegen dem wollen wir reden später. Die Arbeit ist für uns geworden, als schwerer. Der Kopf hat sich gedreht. Als man hat gedacht, der Auftragen, den Pack mit dem Bönwo. Auf Russisch hat man das gerufen, Chlopka. Hat da viele die Fisch genommen, zittern. Und man pflegt gehen, wie auf innerste Fisch. Und in einem aus einem Tag bin ich heraufgefallen vom Brett mit dem Pack, auf welchem wir haben gedacht, der Auftragen. Und das hat euch passiert mit anderen. Was soll ich euch sagen? In einem Tag ist einer von uns krank geworden auf Typhus. Und es hat nicht lange gedauert, bis wir alle sich angestochen. Unsere Körper sind so ein Gewinn, als sie aufgeschwächt, als sie sind so ein Gewinn gerät. Aufzunehmen jeder Krankheit. Bei mir und bei meinen Haveren um sie geschaffen auf dem Körper als eine Reichungen oder verunkeln, voll mit Äther. Jeder eine ist gewinn als sehr groß wie ein kleiner Apfel. Und der Reichung hat er sehr ungezogen, bis er hat geplatzt. Und dann fliegt er rausrinnen, bis ein halben Liter Äther.
Ich hab sich verliebt in eine Jünger, der Scheine. Und ich kenn zu ihm nicht gut.